Les 4 tops sur France Inter, bienvenue. Il est 7h. Le journal, bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
À la une ce matin, le spectaculaire volte-face de l'Iran, Téhéran, qui reconnaît désormais avoir abattu l'avion ukrainien par erreur en provoquant la mort de 176 personnes. Les autres titres, Laurence.
Le conflit sur les retraites, suspendu aux annonces du gouvernement ce samedi, journée d'une nouvelle mobilisation en France. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, promet des décisions fortes sur le climat. Il ouvre la porte d'un référendum. Et puis aux États-Unis, le Congrès avance vers le procès en destitution de Donald Trump. Vous invitez ?
L'invité et eux, à partir de 8h20 ce matin, la ministre des Armées, Florence Parly. Question donc sur le dossier iranien et question aussi sur la présence française au Sahel.
France Inter.
Une erreur impardonnable, une grande tragédie, ce sont les mots du président iranien Hassan Rouhani. Son pays vient de reconnaître ce matin avoir tiré par erreur contre l'appareil d'Ukraine Airlines mercredi, faisant 176 morts, essentiellement des Irano-Canadiens, mais aussi des Afghans, des Britanniques, des Suédois et des Ukrainiens. À Téhéran, la correspondance de Savioche Ghazi.
C'est par un communiqué officiel de l'état-major des forces armées que l'Iran reconnaît avoir frappé par erreur l'avion ukrainien. Dans cette situation sensible et de crise, après les frappes iraniennes contre une base américaine en Irak, le vol 752 de la compagnie ukrainienne a décollé de l'aéroport international de l'Imam Khomeini et lors de sa rotation s'est rapproché d'un centre sensible militaire des gardiens de la Révolution, affirme le communiqué de l'état-major. L'avion a été touché à cause d'une erreur humaine et de manière involontaire et malheureusement cela a provoqué la mort en martyr d'un certain nombre de nos compatriotes et la mort de ressortissants étrangers, ajoute le communiqué de l'état-major qui présente ses condoléances aux familles des victimes. Jusque-là, l'Iran avait rejeté l'hypothèse d'une frappe au missile et avait dénoncé une propagande suspecte des États-Unis et des pays occidentaux en parlant d'un accident à bord de l'avion. Téhéran fait donc volte-face, sans doute à cause des pressions internationales et les résultats premiers de l'enquête qui a commencé depuis jeudi avec la présence des enquêteurs ukrainiens, alors que d'autres experts, notamment canadiens, sont en route vers l'Iran. Téhéran, Savioche Ghazi, RFI pour France Inter.
Et ajoutons que Téhéran a présenté ses excuses aux familles des victimes, mais selon le chef de la diplomatie iranienne, cet accident est la conséquence aussi, je cite, de l'aventurisme des États-Unis.
C'est aujourd'hui en France une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites.
Et ce n'est pas la dernière. Mardi prochain, 14 janvier, l'intersyndicale CGTFO solidaire, CFE, CGC, FSU appelle à une nouvelle mobilisation interprofessionnelle. D'ici là, le gouvernement aura-t-il trouvé un compromis avec les syndicats réformistes à l'issue des rencontres hier avec toutes les organisations syndicales et patronales à Matignon? Le Premier ministre a promis un document écrit aujourd'hui qui pourrait être la base du compromis, un texte qui devrait comporter des concessions, Maxence Lambrecq.
Dans la cour de Matignon hier soir, premier effort, Édouard Philippe n'a pas évoqué le chiffon rouge, l'âge pivot, et il s'est même gardé de parler d'équilibre financier, alors qu'il avait passé la journée à présenter aux syndicats des tableaux de Bercy justifiant la pertinence d'un âge d'équilibre à 64 ans. Aujourd'hui, le gouvernement promet dans ce texte des avancées, de quoi bâtir un compromis solide. Il va garantir le sérieux d'une conférence de financement, détaille un conseiller du Premier ministre. Ce ne sera pas une conf pour jouer au tarot, on parle là de 12 milliards d'euros à trouver. Dans son allocution souriante, le Premier ministre n'a pas manqué hier d'impliquer le président de la République. Histoire de rappeler que c'est bien Emmanuel Macron qui tient la plume et non son cabinet. Il ne veut pas couler tout seul, s'amuse un député. Édouard Philippe joue encore en tout cas la carte de la fermeté sur le calendrier. Personne ne sait ce qu'elle comportera in fine, mais dans moins de deux semaines, le 24 janvier, cette réforme des retraites sera présentée au Conseil des ministres. Les dés seront enfin jetés, souffle un marcheur.
Une enquête ouverte par le parquet de Paris à la suite de la diffusion d'une vidéo dans laquelle un policier semble tirer quasi à bout portant sur des manifestations avec un LBD. L'incident a eu lieu jeudi au cours de la manifestation à Paris contre cette réforme des retraites.
C'était hier soir le grand oral d'Emmanuel Macron sur le climat.
Le chef de l'État a échangé avec les 150 Français de la Convention citoyenne sur le climat, chargé de faire d'ici fin avril des propositions pour lutter contre le réchauffement climatique. Créé en avril dernier dans le cadre de sa réponse à la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a rappelé la démarche de cette Assemblée, inclure davantage les citoyens dans l'élaboration des lois et le chef de l'État pense à soumettre à référendum une partie des propositions, Célia Kiré.
Le président a été clair, il reprendra certaines mesures si elles sont fortes et précises, mais pas toutes. Il propose également de poursuivre cette convention au-delà du mois d'avril. Denis est maire dans les Yvelines, il est ravi.
C'est assez convaincant et en plus il dit, et après on va continuer pour aller jusqu'au bout et voir si l'ensemble de ce qu'on a pu proposer, comment ça sera appliqué et dans quel délai et autres. C'est bien de faire des propositions, mais il faut assurer le suivi. Aujourd'hui, il faut être audacieux, sinon on va faire péter la planète.
William, architecte nantais, espère même pouvoir modifier l'article 1 de la Constitution pour y intégrer des enjeux climatiques.
D'entendre le président parler de propositions radicales, ça m'a surpris personnellement. Donc ça veut dire qu'on a tout mandat pour faire les choses en grand. On a confiance que même si on veut changer l'article 1, ce serait possible et qu'il y a des voies à trouver avec lui.
Mais Yolande, une des figures de cette convention, reste très dubitative. Elle dénonce un show.
Je m'attendais à ça, de toute façon. Hein. C'est pas un endroit pour un débat d'idées. Je pense que les gens bossent quand même. Hein. Les 150, ils bossent. Hein. Si jamais on se fait rouler dans la farine à la fin, c'est-à-dire qu'il n'en ressort rien, ou c'est pas appliqué, ou différé, aussi, ça va gueuler. Hein.
Emmanuel Macron est prévenu. Il s'engage en tout cas à débattre à nouveau avec les citoyens après le mois d'avril.
C'est Yakiri.
Les États-Unis à présent, où il y aura bien un procès en destitution pour Donald Trump.
Hier, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé qu'elle allait demander à ses collègues démocrates de transmettre au Sénat les deux chefs d'accusation qui pèsent sur Donald Trump. Il s'agit de l'affaire ukrainienne, ce coup de téléphone passé fin juillet au président Zelensky, et durant lequel Trump avait demandé des informations compromettantes sur un rival politique, Joe Biden. Il y aura donc bien un procès au Sénat, mais l'issue paraît courue d'avance, Grégory Phillips.
Après 3 semaines d'hésitation et de tractation dans les couloirs du Capitole, Nancy Pelosi va donc demander à ses collègues démocrates de la Chambre des représentants de voter en séance plénière la semaine prochaine la résolution qui permettra de transmettre au Sénat les deux chefs d'accusation visant Donald Trump, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. La Chambre devra aussi désigner les élus démocrates qui joueront le rôle de procureurs dans ce procès en destitution. On ne sait pas encore quand ce procès au Sénat aura lieu, on ne sait pas combien de temps il va durer et quels témoins feront l'objet d'une convocation. Nancy Pelosi veut obtenir des républicains l'assurance d'un procès juste, dit-elle. On se doute en revanche de l'issue de ce procès. Pour que Donald Trump soit destitué, il faudrait que le Sénat se prononce aux 2/3 pour le départ du président. Ça paraît quasi impossible dans une chambre largement dominée par le camp républicain. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
On va faire un tour au cinéma avec un visage. Hein. Il serait d'ailleurs en 2020 l'un des nouveaux visages du cinéma français.
Benjamin Voisin, 23 ans, héros du prochain film de François Ozon, est à l'affiche cette semaine d'un vrai bonhomme. Un premier film sur le thème du deuil et l'adolescence qui secoue cette rentrée. Deux frères enfermés dans une relation fusionnelle et toxique, sujet classique, mais un casting prometteur, Corinne Pellissier.
Mec, ce qui compte, c'est la première impression.
Depuis qu'il était petit, Tom ne jure que par son frère Léo, le beau gosse nonchalant, populaire, tout l'opposé de l'adolescent qui s'apprête à faire son entrée dans un nouveau lycée.
Cool et détendu. Léo, il est avec toi là ?
Un récit classique d'apprentissage qui va très vite se transformer en conte fantastique. Car le jeune Tom, qui croit écouter les conseils de son frère pour devenir un vrai bonhomme, ne parle en fait qu'à un fantôme.
T'as perdu quelqu'un ?
Léo a disparu depuis 2 ans, mais continue d'influencer ses choix de manière très masculine et toxique. Être fort, se battre, un sujet dans l'air du temps sur l'éducation donnée aux garçons et un casting très prometteur. Thomas Guy dans le rôle de Tom, qui va devoir batailler pour s'affranchir.
Craque pas putain Tom, craque pas.
Si t'as pas honte, il peut avoir rien contre toi.
Et Benjamin Voisin, Léo, aux allures de poète maudit, issu du cours Florent, il sera cette année à l'affiche de 4 films, notamment chez François Ozon et Xavier Giannoli, pour l'adaptation de la comédie humaine de Balzac.
C'est fini. Alors dis-moi pourquoi je suis encore là.
Je vais arriver.
Tom, t'es courageux. C'est pour ça que tu t'en es sorti, tu m'entends ? T'es à la hauteur.
Un vrai bonhomme au cinéma cette semaine, un film de François Ozon.
C'était le journal de Laurence Thomas.